Nous débutons ce cycle de conférences de carême au couvent des Dominicains de Toulouse. Aujourd'hui, un voyage spirituel à travers des lieux emblématiques de la Bible. Le frère Gilles-Marie Marty ouvre le cycle avec une conférence dont le titre est « Une promenade quatragésimale parfumée ». C'est tout de suite, bonne écoute.
Cette causerie s'intéresse à une question et une seule. Pourquoi le carême s'étale-t-il sur 40 journées? Vous me direz, mais entre son début hier et sa fin, le samedi saint, on compte 46 journées pleines. Oui, mais la tradition a ôté les dimanches, ce qui nous amène au chiffre de 40. Je redis donc l'unique question de ce soir, pourquoi l'Église propose-t-elle un carême qui dure 40 jours? À cette question, on pourrait répondre en historien. C'est au IVe siècle, quand l'édit de Milan a mis fin aux persécutions et a permis à l'Église de s'organiser librement, qu'est apparue la quadragesima. Parla italiano, non? Parla latino, non? Quadragesima. C'est-à-dire le carême de 40 jours. Mais malgré son grand intérêt, notre causerie ce soir ne traite pas de l'histoire de l'Église. Vous me direz, mais est-ce qu'elle a au moins un objectif? Oui. Son objectif, c'est tout simplement que la croix de cendre qui hier a été déposée sur notre front, qu'elle ne s'efface pas de notre cœur aussi vite qu'elle a disparu de notre peau. Nous sommes venus ici car nous savons que le carême est un temps fort qui mérite qu'on s'y prépare sérieusement. Si toutefois on ne veut pas le traverser comme un songe et arriver le jeudi saint comme si on avait la gueule de bois. On le voit à la messe, la liturgie a deux volets, l'écoute et le sacrifice. On écoute la parole de Dieu pour alimenter notre intelligence, pour affermir notre foi, et on participe au sacrifice pour recevoir la grâce du Christ et donc pour sanctifier tout notre être. Mais chronologiquement, pédagogiquement, ce qui est premier, c'est la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Autrement dit, toute la liturgie repose tout entière sur la Bible. Et justement, ce nombre de 40 provient de certains événements racontés dans la Bible. Alors la question que nous nous posons, nous ne sommes pas les premiers. Les pères de l'Église se sont posés cette question il y a fort longtemps. Et ils ont répondu avec précision. Prenons par exemple saint Ambroise de Milan, que je cite maintenant. 40. Tu devines que ce nombre est symbolique, car tu te souviens que c'est pendant ce nombre de jours que les eaux du déluge ont déferlé sur la terre à l'époque de Noé. Et aussi que le patriarche Moïse mérita de recevoir la loi après avoir jeûné au mont Sinaï. Et aussi que ce même patriarche implora le pardon de Dieu après que le peuple se soit prostitué avec le veau d'or. Et aussi que dura l'exploration de la terre promise par Caleb, Josué et leurs compagnons. Et aussi que le peuple élu vécut autant d'années dans le désert aride, nourri par la manne, et aussi que jeûna le prophète Élie en marche vers le mont Horeb. Voilà donc plusieurs événements bibliques qui se rattachent à ce nombre. Et donc on se demande, comment faut-il regarder ce nombre pour le faire dans l'esprit de la Bible? La réponse est simple. Il faut le regarder comme un signal. comme un marqueur, comme une indication. Exemple, vous passez dans un couloir, il n'y a personne, mais il y a un certain parfum. Et aussitôt, vous savez que Madame Michu est passée par là. Elle a laissé cette trace qui en dit long, parfois même 3 heures après. Un autre exemple, vous êtes égaré dans la forêt de Vitzavon, sous les sous-bois, vous vous demandez où vous êtes. Soudain, sur un rocher, 2 petits traits superposés, un rouge au-dessous, un blanc au-dessus. Ouf ! Quel soulagement ! Vous êtes bien sur la piste du GR. Voilà des exemples de traces, de marqueurs. Et le chiffre 40 en est un pour les croyants. La Bible l'associe à certains événements pour nous faire saisir qu'il y a des liens cachés entre ces événements. Il y a des liens cachés, donc des résonances de l'un à l'autre, des harmoniques. Et ainsi, si nous percevons ça, nous allons mieux les comprendre, ces événements, dans leur plénitude. Donc, notre quadraginta 40, en latin et en italien, c'est un marqueur qui associe divers épisodes bibliques, je vous en ai cité plusieurs, qui apparemment n'ont pas trop de lien entre eux, et pourtant qui, dans l'esprit de la Bible, sont destinés à s'éclairer mutuellement. Alors, ce soir, limitons-nous aux 2 principaux événements. Les 40 années du peuple au désert et les 40 jours de jeûne de Moïse et d'Élie. Le premier de ces événements, l'errance au désert, ça revient souvent dans la Bible, mais si on est attentif, on voit qu'il y a de fortes nuances. Commençons par le livre des Nombres. Il en parle pour indiquer la durée de la colère de Dieu sur la génération qui est sortie d'Égypte et qui, en raison de son manque de foi, n'est pas entrée en terre promise. Alors, je vous fais des citations comme ça, sans donner les références. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à ce que fut anéantie toute la génération qui avait commis le mal aux yeux de Yahvé. Ça ne concerne pas qu'Israël. On retrouve cette approche centrée sur la colère de Dieu à propos du déluge. Encore 7 jours, dit Dieu, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Je ferai pleuvoir et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Et puis il y a d'autres occasions, dans une causerie comme ça, on cite quelques-uns pour illustrer, cette prophétie de Ézéchiel contre l'Égypte. Je ferai du pays d'Égypte une désolation. Ces villes seront désolées pendant 40 ans. Aucun pied d'homme n'y passera, et même aucun pied de bête n'y passera, afin qu'elles soient inhabitées parfaitement pendant 40 ans. Quant aux Égyptiens, je les disperserai au loin parmi les nations. Voilà une première coulée. Colère de Dieu. Mais dans d'autres livres, par exemple Deutéronome, voilà qu'une autre interprétation de ce nombre apparaît. Ces années d'errance, elles sont maintenant présentées comme un temps d'épreuve que Dieu impose à son peuple. Cite le Deutéronome. Tu te souviendras de tout le chemin que Yahvé ton Dieu t'a fait marcher durant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, afin de t'éprouver, afin de connaître les sentiments de ton cœur, afin de savoir si tu garderas ou non ses commandements. Il t'a fait avoir faim, exprès. Puis il t'a nourri de la manne, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, l'accent ici n'est plus sur la colère de Dieu, mais sur l'épreuve. Or, pourquoi passe-t-on des épreuves ? Est-ce qu'il y a des étudiants parmi nous ? Il y a des étudiants. Mon cher frère, est-ce que vous passez des épreuves pour réussir ou pour vous planter ?
Pour la gloire de Dieu.
Pour la gloire de Dieu. Bon, il est un peu rabbin sur les bords, vous voyez. C'est entre rabbin et jésuite, c'est-à-dire on ne sait pas exactement ce qu'il pense. Bon. Mais la réponse est exacte parce que dans le regard de Dieu, tout est possible. Bon, normalement, les étudiants passent ou les sportifs passent des épreuves pour les franchir, à moins d'être vraiment maso, pour réussir leur parcours. Il en va de même pour Israël. C'est pourquoi ici, le temps du désert devient aussi un temps de grâce. Parce que Dieu veut qu'Israël, qu'il a mis au défi, réussisse son épreuve. Et donc, il opère certaines merveilles pour son peuple, à commencer par le nourrir gratuitement. Il y a d'autres livres dans l'Ancien Testament où on trouve cette vision des 40 années comme un temps à la fois d'épreuve et de grâce. Alors, il y en a plusieurs, je vous en cite un par exemple, dans le livre de Néhémie. Pendant 40 ans, toi Dieu, tu as pourvu à leur entretien, les Israélites, dans le désert. Et ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont point usés et leurs pieds ne se sont pas enflés. Quand vous marchez pendant 40 ans, ce n'est pas un détail. Hein. Bref, pendant tout ce temps, Dieu a été proche de son peuple. Il a subvenu à ses besoins tout en lui imposant une épreuve. Un peu comme un père de famille. Mais à la base, il faut le dire, c'est bien un temps d'épreuve, hein, parce que le but, c'est de tester ce que vaut le peuple, de tester la solidité de sa foi. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a créés. Franchement, pourquoi nous a-t-il créés ? On est donc curieux de savoir comment cela s'est passé en réalité, le résultat des épreuves. Vous voyez, quand on affiche le truc, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu là. Bon, il n'y a pas trop de suspense. Hein. Vous connaissez bien la Bible. Cette épreuve a manifesté la dureté de cœur d'Israël. C'est un échec. Alors, vous avez comme témoin le fameux psaume 94. Ce psaume 94, je dis fameux pourquoi ? Parce que c'est le début de l'office des lectures. C'est le premier psaume qu'on doit lire au début. Il y a plusieurs offices dans la journée, l'office des lectures. Et quand vous ouvrez le livre de l'office, qu'on appelle le PTP, le premier truc sur lequel vous tombez, sur une page cartonnée en plus, c'est ce psaume 94. Quand on est en pole position, ça veut dire qu'on a de l'importance. Alors, comment ce psaume s'achève-t-il ? Dans ma vie, j'ai dû le réciter, je ne sais pas combien de centaines ou milliers de fois. Bon, je vous le lis. Oh, c'est Dieu qui parle. Hein. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, quand vos pères m'ont éprouvé, quand ils m'ont tenté. C'est l'homme qui tente Dieu. Aussi, pendant 40 ans, j'ai eu cette race en dégoût. Et je dis même à ce peuple égaré, à ces gens qui n'ont rien connu de mes voies, j'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Vous voyez qu'arrivé à ce stade, alors qu'on était parti sur une toute autre piste, la boucle se boucle Et on retrouve la première interprétation, celle de la colère de Dieu. Ce sont deux choses séparées, mais qui sont en lien. Or, cette double interprétation des 40 années au désert, la colère de Dieu et l'épreuve de la foi, c'était très familier au judaïsme. C'était de plus en plus familier au judaïsme au fur et à mesure que le temps avançait. C'était une grande classique du judaïsme, de commenter cela. Et donc, ça n'est pas étonnant qu'on retrouve cette dualité dans le Nouveau Testament. Alors, saint Luc, par exemple, il rappelle plusieurs fois cet épisode. Je ne vais pas relire ce qu'il rappelle, on vient de l'entendre. Mais il le fait pour en tirer une leçon. Il dit, cette épreuve voulue par Dieu pour réussir n'est pas sadique. Cette épreuve a néanmoins abouti à un échec retentissant. Mais puisque Dieu ne renonce jamais, nous devons en déduire que cette épreuve qui a échoué n'a pas été faite pour rien. Elle annonce, elle préfigure une autre épreuve. Cette autre épreuve, c'est l'Épître aux Hébreux qui en parle le mieux. Je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux a été écrite, très vraisemblablement, pour les prêtres d'Israël, pour la tribu de Cohen, et les Lévites, pour la tribu de Lévi. Ils sont les premiers concernés. Ça donne tellement de détails qu'on a l'impression que ça a été fait par quelqu'un de l'intérieur. Donc, cet Épître aux Hébreux commence par citer le psaume 94, tout ce que je vous ai lu. Puis, il commente ce qu'il vient de citer. Et comme il s'adresse à des prêtres, il n'hésite pas à enfoncer le clou. Qui sont donc ceux qui, ayant entendu la voix, se sont révoltés? Silence. Suspense. Il regarde les prêtres. N'est-ce pas tous ceux que Moïse avait fait sortir d'Égypte? Et contre qui Dieu s'est-il emporté pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres jonchent le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait jamais dans son repos, sinon à ceux qui avaient refusé de croire? Car c'est en raison de leur manque de foi qu'ils n'ont pas pu entrer. Bon, je m'arrête là parce qu'il en a des tartines, hein. Et il conclut ainsi, puisque les premiers à avoir reçu une bonne nouvelle n'y sont pas entrés à cause de leur refus de croire, toujours il le souligne, mais que pourtant certains, d'autres, doivent y entrer. Eh bien, Dieu fixe un nouveau jour qu'il appelle un aujourd'hui. Et pour cela, il cite le psaume, le même que tout à l'heure. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et cet « aujourd'hui » qui a été écrit il y a 3000 ans, chaque fois qu'on le dit, c'est l'aujourd'hui de maintenant. Du 6 mars et demain du 7. Bref, c'est « aujourd'hui » d'un psaume récité en Israël depuis à l'époque où le gars des Hébreux écrit, ça faisait au moins 10 siècles, hein, il est désormais là. Alors, petite question, à votre avis, qui est le premier à avoir bénéficié de tout cela? Est-ce que c'est l'auteur de cette épître? Est-ce que c'est l'un des apôtres? Qui était le premier bénéficiaire de aujourd'hui? Bon, vous le savez. Après, ne me dites pas, oui, je le savais. Abraham, il a su qu'après. Un gars qu'il a eu en direct. Je veux dire, comme maintenant, là. On est en direct, là. Hein? Il faut parler fort, je suis sourd. À qui a-t-il dit sur la croix, aujourd'hui, 10 mars, tu seras avec moi en paradis. Et 10 mars l'a entendu comme nous autres devrions l'entendre pendant la liturgie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que nous l'entendons? j'ai failli m'arrêter là parce que je me suis dit non, mais tu ne vas pas leur raconter des salades, tu n'entends pas comme dismas. Bon, et puis j'aurais eu des ennuis avec eux, donc j'étais obligé de continuer. Vous ne le connaissez pas, j'aurais eu des ennuis. Bon. J'étais obligé de continuer alors que j'aurais dû m'arrêter, franchement. Est-ce que je vais entendre cet aujourd'hui, moi, frère Gilles-Marie, comme dismas l'a entendu? Et pourtant, il est dit dans ce but. Le jour annoncé par le psaume, c'est aujourd'hui. L'épître aux Hébreux nous dit, il a été attendu pendant tant de siècles, il est enfin arrivé avec Jésus. Et c'est la fin d'une très longue histoire. Et donc, c'est aussi le début d'une très longue histoire. Car cette tentation du Christ, encore faut-il que ses fidèles, les chrétiens, y participent. Ou alors ça n'aurait franchement servi à rien. Telle est la raison d'être de la liturgie. Nous faire participer au mystère du Seigneur. Nous rendre participants autant que nous le pouvons, entre nous, ça veut dire davantage que nous le pensons. Car il se peut, là je parle pour moi, peut-être pour quelques-uns aussi dans cette salle, il se peut que nous ressemblions à des petites chenilles qui ont donc des ambitions très limitées. Nous ignorons que nous sommes de futurs papillons destinés à butiner les mille fleurs du royaume de Dieu. Alors comme nous l'ignorons, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rampons et nous en sommes contents en plus, hein, parce que si on nous pousse, nous dirions « Hé, pousse pas mémé, c'est déjà beaucoup, car nous pourrions aussi ne pas bouger, nous pourrions être comme des cochenilles. » Des cochenilles, c'est des trucs qui vivent sur la feuille où on les a posés. Nous pourrions, après tout, vivre comme de petites larves. Vous les voyez, ces chenilles, avec les petites pattes, comme ça, avancées comme ça. Ouh, au bout de 10, elles sont fatiguées. Elles disent, mais non, j'en ai fait les petites chenilles avec les toutes petites pattes. C'est une ambition, ça. Hein? Luc François, il va me falloir un an à ce rythme pour arriver là où tu es. Je suis une petite chenille avec de toutes petites pattes et je suis contente de l'être. Si je me laissais aller, je serais une larve sur le dos, vous voyez. Mes frères, puisque nous sommes entre nous et que la porte est fermée, on peut se le dire, quand il est question de grâce de Dieu, quand il est question de gloire céleste, de vie éternelle, nos ambitions sont souvent limitées. Encore une fois, je parle pour moi et pour tel ou tel que j'ignore dans cette salle. Nous sommes des chenilles avec leurs petites pattes, heureuses de leur sort, satisfaites d'elles-mêmes, certains jours même fières d'elles-mêmes. On se déplace à notre rythme pépère. Et c'est pour cela qu'on a inventé la liturgie, figurez-vous, pour aller plus loin, pour changer de régime. Pour nous montrer, nous qui sommes stupéfaits d'entendre ça, de quoi nous sommes capables. Les mystères de la vie de Jésus, les mystères de la volonté de Dieu, qui ont d'abord été réalisés en lui, Jésus, notre chef, eh bien la liturgie veut qu'ils s'accomplissent aussi dans ses membres. Parce que si ça n'arrive pas, tout cela n'aura finalement servi à rien. Donc la liturgie nous fait entrer, chacun à notre tour, dans cette aventure divine. Elle nous pousse, puisque nous n'y allons pas nous-mêmes. Elle est comme une voile. Nous étions sur notre planche affalée, et là la liturgie est comme une voile qui nous emmène plus loin que là où nous pourrions aller tout seuls. Et donc, dimanche prochain, en entendant le récit de la tentation du Christ, nous entendrons le sens du carême. Figurez-vous qu'on nous définit, nous les chrétiens, là vous n'avez pas le choix. Tout le monde est chrétien ici? Il n'y a pas un nom chrétien ? Non, je dis ça parce qu'une fois, dans une homélie, j'avais dit une évidence, à savoir que Mahomet est un faux prophète. Et alors j'ai reçu des lettres de dames scandalisées en me disant « Vous avez dit ça, j'étais bouleversé. » Bon, alors à l'époque, j'avais répondu, hein, pour ne pas les laisser comme ça dans la mouise, « Excusez-moi, madame, mais vous êtes musulmane, mais vous entrez dans une église, on ne va pas s'adapter à ce que vous pensez. » Et là, les bonnes femmes me répondent furibardes, « Mais on est des catholiques !» On est des catholiques, et même des catholiques avancés. Bon. Alors, donc, puisqu'on nous définit, nous les chrétiens, comme ces gens bizarres qui veulent suivre l'agneau de Dieu partout où il va. C'est comme ça que l'Apocalypse définit les chrétiens. Ceux qui suivent l'agneau de Dieu, qui veulent le suivre partout où il va. Eh bien, alors, nous voilons pris au mot. Pendant tout ce carême, si nous entrons dans la liturgie, nous suivrons Jésus au désert, de mille façons, et en particulier de deux qui sont capitales, en écoutant sa parole chaque jour, et en acceptant d'affronter nos tentations, plutôt que de tourner la tête, ou alors carrément de la mettre dans le sable. On vient de dire que 40 est le marqueur biblique traditionnel pour désigner la tentation. Alors cela vaut pour Israël, cela vaut pour le Christ, cela vaut pour tous les fidèles. D'accord. Mais ce n'est pas tout. Car ailleurs, dans l'Ancien Testament, notre quadradinta, le 40, le chiffre 40, parla italiano, non ? Quadradinta, il qualifie non plus des années, mais des journées. Citation. Moïse fut au mont Sinaï avec Yahvé pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et tout ce temps, il le passa à supplier Dieu pour réparer les péchés du peuple qui venait de se construire un veau d'or. Donc, on le sent tout de suite, quadradinta, notre chiffre, ou plutôt notre nombre, hein, 40 c'est un nombre, il indique un nouveau thème que vous venez d'entendre, le thème du jeûne et de la prière. Ce sont deux réalités différentes, mais que la Bible associe étroitement pour nous faire comprendre que, bien que différentes, elles sont quasiment inséparables. Et ce sont des réalités à l'importance capitale, puisque elles seules peuvent disposer l'homme à recevoir les grâces de Dieu. C'est pour ça que Dieu se met en colère. C'est que Israël fait tout ce qu'il peut pour éviter cela. Et donc, impossible de recevoir la grâce de Dieu. Alors, puisque le peuple de Dieu a la nuque raide et le crâne épais, les Canadiens, ils ont une bonne expression pour ça. Pour dire les gens qui ne comprennent pas tout de suite. Ils disent, ce gars-là, il est gentil, mais il est un peu épais dans le mince. Oui. Donc, comme Dieu sait que nous sommes un peu épais dans le mince, la Bible en remet une couche. Donc non seulement elle va parler du jeûne de Moïse, mais aussi du prophète Élie. Vous les situez tous les deux. Moïse aurait vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et Élie au IXe siècle, donc quatre siècles après. À la demande de Dieu, Élie se rend à l'Horeb. Horeb, un autre nom du mont Sinaï. Sinaï, ça désigne un désert immense et une montagne. Horeb, ça désigne cette même montagne. Et pour ça, il traverse le désert de Beersheba, qu'on peut traverser encore aujourd'hui. Durant ce voyage, qui est une sorte de trek vraiment radical, hein, parce que non seulement il n'a pas de besace, mais il n'a rien dans les poches, le gars. Il est parti pour 40 jours. Alors, bon, à un moment, il s'effondre, et là, il veut abandonner, il en a marre, il est à bout. Un ange vient le nourrir. Alors, dit la Bible, dans la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Question. Pourquoi Dieu envoie-t-il ainsi Élie, sinon pour renouveler son alliance avec son peuple? J'insiste sur ce point parce que c'est un exemple parfait de notre marqueur. Le simple fait d'entendre 40 nous fait tilt. Cela nous renvoie à deux événements majeurs dont on vient de parler, la traversée du désert par le peuple et le séjour de Moïse sur la montagne. Mais ça y renvoie, mais un peu comme un escalier, en ajoutant quelque chose, avec un nouvel accent. On est dans le même lieu, mais on prend de la hauteur. Parce que ici, si on lit bien le texte, on va moins se préoccuper de tentations, comme précédemment, tout ce que je viens de dire, que de préparation. Donc, notre quadradinta, cela désigne désormais, en plus de tout le reste, sans annuler tout le reste, tout ce qu'on a dit avant est vrai. Et nouvelle dimension, nouvel aspect. Cela désigne maintenant la durée de la prière qui est nécessaire pour se préparer aux événements à venir, lesquels on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que Dieu les enverra plus tard. Alors tout ça s'éclairera beaucoup plus tard. Nous le savons. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, ils n'avaient aucune façon de s'en douter. Tout ça, on le comprend quand Jésus se laisse fugacement apercevoir, parce qu'il rayonnait tellement que les disciples ont plongé sur le sol. Quand il se laisse apercevoir au mont Tabor, dans la verdoyante Galilée, entouré justement, c'est pas un hasard, de Moïse et d'Élie, eux qui s'étaient rendus au mont Horeb, dans l'aride et sévère désert du Sinaï. Si vous avez été en Terre Sainte, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Donc Moïse y avait été pour recevoir la loi de Dieu et aussi sa mission de guide du peuple. Et Élie y avait été pour recevoir une révélation sur Dieu. Jusque-là, Dieu, c'était le tonnerre, hein, et la foudre. Vous avez vu comment il parle. Trump, c'est rien à côté. Bon, donc c'était le tonnerre absolu. Et là, Élie, en tant que... c'est une brise légère, un souffle à peine perceptible. Et il y reçoit aussi la confirmation de sa très difficile mission auprès du peuple. Donc, notre marqueur, c'est le 40. Hein, 40 du jeûne de Moïse, 40 du jeûne d'Élie, 40 du jeûne de Jésus. Il indique clairement aux Juifs que, aux Juifs de l'époque de Jésus, toutefois s'ils ont des oreilles pour entendre, que Jésus reprend la mission du grand patriarche Moïse et celle du grand prophète Élie. Il les reprend, mais pas pour les conserver comme ça, pour leur donner une ampleur insoupçonnée. Alors, petit retour sur le séjour de Moïse au Sinaï. Il a employé ses 40 jours, dit la Bible, à la prière et au jeûne afin de détourner le châtiment qui devait frapper Israël. Autrement dit, ces 40 jours indiquent un temps de pénitence en vue du jugement. Il n'y a pas que cet épisode d'Israël qui est concerné. Si vous prenez le livre de Jonas, nous allons entendre quelque chose de semblable, mais avec une nouveauté capitale. Celui qui est concerné par le jeûne, désormais, ce n'est plus seulement un homme comme Moïse ou Élie, c'est désormais tout un peuple. Et en plus, un peuple de goy, un peuple de païens. Donc je lis Jonas. Jonas entra dans la ville, il prêcha et dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oula. Les gens de Ninive crurent en Dieu et publièrent un jeûne. Ils disaient, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, de sorte que nous ne périssions point ?» C'est bien sûr une prophétie. Le jeûne qu'annonce Jonas, c'est celui des nations, des païens. Et la prédication de Jonas à Ninive, elle est, bien sûr, un précurseur, un premier coup de la prédication de l'Église au monde entier. Parce que la mission de l'Église, c'est de prêcher à temps et à contre-temps au monde entier la conversion à Dieu en vue du jour du jugement. Donc vous voyez, notre marqueur, il s'enrichit de tous ses sens. Maintenant, il indique, pour ceux qui ont des oreilles, qui lisent la Bible, qui sont familiers de la parole de Dieu, il indique aussi la prédication de la pénitence. Cela donc a commencé il y a très longtemps, au désert de Beersheba, au mont Sinaï, dans la grande cité de Ninive. Cela s'est accompli d'une façon parfaite dans la mission du Seigneur, mais sa volonté est que cela rebondisse aussi durant tout le temps de l'Église. Et cette prédication pour le salut, eh bien, elle a une place spéciale dans la liturgie de l'Église, c'est le carême. Je viens de citer plusieurs fois le mot de pénitence. Et je crois bon d'interrompre l'exposé biblique pour rester un moment sur ce mot. Autrement dit, j'ouvre une parenthèse. Pénitence, c'est un mot qui ne suscite pas d'ordinaire l'enthousiasme. À part dans cette salle, je connais très peu de monde qui est enthousiasmé par le mot pénitence. Vous, je sais que oui, parce que vous êtes venus. Bon. Et pourtant, le monde devrait être enthousiasmé, parce que, certes, nul ne le nie. Pénitence, d'ailleurs, c'est comme carême. Quand on vous dit carême, on ne se tape pas le derrière au plafond. C'est l'effort, la privation, les difficultés. Bon, si on en reste là, autant dire qu'on reste à la surface des choses. Pire que ça, on se condamne à ne rien comprendre. Pénitence, en réalité, traduit un mot grec, métanoïa. Métanoïa. Alors, ça serait très intéressant de faire de la philologie, c'est-à-dire de décortiquer le mot. Vous voyez, il y en a chez vous, je crois, qui sont abonnés à Facebook. Eh bien, le gars qui possède Facebook et d'autres trucs, il a décidé de ne plus l'appeler Facebook parce qu'il paraît qu'en français, ça ne fait pas bien. Et il a appelé toute son immense compagnie Meta. Bon, il n'a pas appelé Meta pour rien. Fin de la parenthèse dans la parenthèse. Alors, métanoïa, noïa c'est noèse, l'esprit, ça veut dire changement d'avis. En grec, dans la langue grecque classique, changement d'avis. Mais dans la langue chrétienne, ça veut dire bien davantage. Parce que changement d'avis, je voulais aller à Bordeaux, je vais à Montpellier. Bon, d'accord, bon, c'est ton problème, ne nous fais pas perdre de temps. Il n'y a pas d'enjeu. Tandis que dans la langue chrétienne, il y a quelque chose, il y a un soubassement beaucoup plus profond. C'est un retournement du cœur. C'est un repentir. On creuse profond. C'est la conversion. Quand vous avez dans l'évangile « métanoïétier », le verbe, c'est traduit par « repentez-vous, convertissez-vous ». C'est le début de l'évangile. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Voilà ce que dit Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu. Voilà ce que dit aussi Pierre dans les Actes des Apôtres. Le repentir, dans la Bible, c'est la démarche indispensable pour embrasser la foi et pour être baptisé. Sans quoi, c'est du pipeau, c'est du théâtre. Le 25 février 1858, pour résumer tout le message de Lourdes, la Vierge Marie l'a dit très simplement à Bernadette, pénitence, pénitence, pénitence. Et Dieu sait que Lourdes n'est pas un lieu de tristesse ou de dépression. C'est un lieu de conversion et de guérison, justement parce qu'on prend au sérieux la demande de Dieu et l'appel de la Vierge Marie. Alors, si l'Évangile insiste aussi fort, eh bien, c'est que la pénitence n'est pas seulement un acte ponctuel, mais c'est une vertu, c'est-à-dire une détermination enracinée, quelque chose qui est inscrit profondément en nous et qui nous guide comme un GPS moral, quelque chose qui nous fait détester le péché, même si on le fait, qui nous fait nous détourner du péché, au moins en désir, qui nous fait marcher dans la voie de la conversion, en acceptant, si on veut marcher, de ne pas se laisser distraire par les chemins de traverse qui nous emporteraient n'importe où. En un mot, c'est la marque du sérieux de notre attitude envers Dieu. Il a été sérieux envers nous. Il veut qu'on soit sérieux envers lui. Et c'est cela qui nous permet de rester dans la bonne direction. C'est comme une quille, vous voyez, comme la quille d'un bateau, qui nous permet de garder la bonne direction malgré nos innombrables chutes, dont la grâce de Dieu nous relève d'ailleurs inlassablement. Il fait sa partie du travail, comme un navire, vous voyez, qui dessalerait, mais finalement il se remet en selle, si je peux dire, parce qu'il a cette quille qui lui donne de garder le cap. Or, la façon la plus probante d'entrer dans cette démarche indispensable de pénitence, c'est de se priver. Et là, on peut faire le mariole en disant « Ouais, pénitence, attends, je vais te montrer ce que c'est. » Bon, on lui a dit « D'accord, tu verras après, maintenant tu vas te priver. » Bon, le gars dit « Attendez, j'avais autre chose à faire. » Alors, il a commencé par se priver de nourriture. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin universel et permanent. À tel point que ça domine souvent notre humeur. Dans ma vie, j'étais dans beaucoup de groupes. Quand il est arrivé, par exemple, qu'il y avait de la nourriture et qu'il y avait deux fois trop de gens par rapport à la nourriture préparée. Ça se tend, les gars. Chez les religieux aussi, ouais. Ouais, bon, ça, c'est, tout d'un coup, c'est très tendu, tu vois. On met les mains sur la table, comme ça. Il y a un truc, là. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon. Il y a des trucs avec quoi on ne plaisante pas, hein. Attention. Un peu comme, je sais pas, même des animaux gentils, vous voyez. Ma mère avait un chihuahua, donc il était grand comme ça. Une fois, j'ai voulu l'enlever son truc. J'ai fait une fois. Il m'a regardé, il m'a dit, attention toi, le grand là, ça va être ton jour. Bref, la question à laquelle nous avons chacun à répondre est très simple. Chez moi, qui est le patron ? Est-ce que c'est ma volonté, ce qui me fait à l'image de Dieu, ou est-ce que c'est ma sensibilité ? C'est ma volonté ou est-ce que c'est ma sensualité qui ne me fait pas l'image de Dieu, hein ? Est-ce que c'est ma volonté ou est-ce que ce sont mes besoins ? Et j'en ai des tas de besoins. Est-ce que c'est ma volonté ou est-ce que ce sont mes désirs ? Et mes désirs, j'en ai de tas. Alors, quand je me suis posé cette question, voyez, on écrit des trucs comme ça. Vous devez savoir ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais merde, c'est bon pour moi aussi, cette question. Mais j'ai pas du tout eu envie de répondre à cette question, moi. Je l'ai posée, mais je n'avais pas du tout envie de répondre. Ça en dit long, hein. Comme parfois, vous allez chez des gens, vous voyez qu'ils regardent leur frigidaire avec jalousie, ou alors comme si c'était un animal. Il faut pas trop s'en approcher. Bon. Donc ça en dit long, ça aussi. Bah, écoutez, c'est par là qu'il faut commencer. Mais ça n'est que le début de la pénitence, hein, nous ne l'aurons pas. Parce que la pénitence, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Ça ne peut pas viser seulement notre estomac ou nos seules papilles. Ça veut prendre tout le bonhomme. Il n'en reste pas moins que le jeûne est le meilleur point de départ. C'est un grand classique de la pénitence. Tout le monde est obligé de passer par là. Voilà, autrement, on ne peut pas dire qu'on sait ce que la pénitence. Et c'est pourquoi le jeûne est devenu, pour les croyants, un synonyme de pénitence. Et dans la langue française, vous avez ces figures de style qu'on appelle les métonymies, qui fait qu'une partie d'un tout peut aussi désigner le tout. Alors, je termine en disant, le jeûne, c'est le grand classique de la pénitence, mais pour ceux qui savent le fond de l'histoire, ça n'est qu'un hors-d'œuvre, c'est un amuse-gueule, car la pénitence vise beaucoup plus loin. Elle vise tout, en fait. Fin de la parenthèse. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant au sujet de la quarantaine quadraginta, tout ce qu'on a dit tourne autour de ces deux notions, la mise à l'épreuve et le jeûne, ou encore mieux, la tentation et la pénitence. Mais de même qu'en alliant deux métaux, on en obtient un troisième, de même en associant tentation et pénitence, on arrive à une troisième réalité, qui est autre chose. Et cette troisième réalité, c'est la préparation. Prenons, par exemple, le séjour du peuple au désert. On vient de le voir long en large, c'est le temps où sera détruite, exterminée la génération qui n'a pas cru. D'accord. Mais c'est aussi le temps qui prépare l'entrée de leurs descendants dans la terre de la promesse. On voit ça chez le prophète Osée. Dieu commence par déverser sa colère due aux trahisons d'Israël. Bon, là, il y en a un paquet. Hein. Mais contre toute attente, après ce réquisitoire, il conclut, en foot on appelle ça être pris totalement à contre-pied, il conclut, mon épouse infidèle, Israël, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et là, je lui parlerai de cœur à cœur. Bon, il souffle le chaud et le froid. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut prendre le temps de s'y habituer. Et c'est justement pour cela que l'Église, dès qu'elle a eu les coudées franches, dès qu'elle a pu établir le catéchuménat à destination des païens, la préparation au baptême, ça se faisait sur 3 ans, hein, pour que les catéchumènes soient bien formés. Et elle a inclus à la fin cette durée de 40 jours, comme le temps le plus fort où on allait vérifier tout ce qui avait été vu jusque-là. Vous le voyez, on dit que le monde ne s'est pas fait en un jour, et le salut du monde, pas davantage. Il faut du temps, il faut de la préparation. Revenons un instant au grand jeûne, Moïse, Élie et Jésus. Ces jeûnes ont permis à chacun de ces serviteurs de Dieu de se préparer à recevoir sa grâce. Et pas seulement au plan personnel. Vous voyez, quand on reçoit la grâce au plan personnel, comme une ascèse, c'est-à-dire on reçoit la force de se séparer de soi et de ses passions pour s'ouvrir au don de Dieu. Bon, c'est quelque chose de très bien. Mais le jeûne de Moïse, d'Élie et de Jésus, on voit pour les premiers qu'il y avait cet aspect, pour les deux premiers qu'il y avait cet aspect d'ascèse, mais en fait, ils ont aussi été vécus dans l'attente d'événements à venir. Pour Moïse, le don de la loi, pour Élie, sa mission prophétique radicale, pour Jésus, l'annonce du royaume. Tout cela, ils l'ont, leur mission, ces piliers de la Bible, il a fallu qu'ils le préparent. Ce n'est pas venu comme ça, comme des cailles dans le désert. Il a fallu le préparer fortement, virilement, longuement. Et donc la quarantaine, encore une nouvelle dimension. Elle est le marqueur de notre préparation intime pour Dieu. Notez d'ailleurs, ça ne concerne pas que le carême. La quarantaine, quadraginta, c'est même plus large que le carême, quadragésima. Pensez à la durée entre Pâques et l'Ascension. Jésus a devancé le traumatisme qui aurait certainement touché ses disciples si, après sa résurrection, il avait disparu aussitôt. Il les aurait laissés incrédules. Les gars se seraient dit, mais j'ai rêvé. Et donc, il a très soigneusement préparé cette séparation d'avec eux. Il s'est laissé toucher. Il les a enseignés aussi. Et d'ailleurs, saint Paul précise, non seulement il a enseigné les apôtres, ses proches, mais jusqu'à 500 disciples à qui il a prêché pendant 40 jours. Il les a préparés. Donc, notre quarantaine, notre chiffre fétiche, c'est aussi le marqueur de cette vérité capitale qui changerait le monde si les chrétiens la prenaient au sérieux. Ça changerait le monde de façon incroyable. Cette vérité. Le temps de la vie humaine, c'est la préparation au monde à venir. Alors, si nous voyons loin notre sainte quarantaine, notre quadragésima, elle prépare non seulement à Pâques, mais à ce qui suit, à la Pentecôte. Notre quarantaine est inséparable de la cinquantaine. Bon, maintenant vous êtes fatigué, donc je vous le dis simplement entre parenthèses, c'est la fin, hein, c'est pas une mi-temps. Dans la Bible, à votre avis, le chiffre 50, c'est un quoi? Le chiffre 40, c'est un quoi? C'est un mar. Et le chiffre 50, c'est un quoi? Vous avez tous votre exemple. 50. 7 fois 7 plus 1. 7 fois 7, la semaine de semaine. Plus 1. Au-delà de la semaine de semaine. Au-delà de la totalité du temps. Là où le temps humain et du monde, le temps mondain, le temps de la création est dépassé. Là où l'on pressent l'éternité. Donc, dans la liturgie, cette succession des 40 jours et des 50 jours, c'est un symbole frappant, une fois qu'on a compris, de la succession du temps et de l'éternité. Mais il se touche comme ça. La succession de la préparation au monde de Dieu et de la consommation, c'est-à-dire de la jouissance. La succession du temps de la pénitence qui sera suivie du temps infini de la récompense. Alors là, saint Augustin, il ne peut plus s'arrêter. Quand il a eu compris ça, il ne peut plus s'arrêter. Je vous cite quelques lignes de lui, mais on pourrait en faire des livres. Ce nombre 40, figure-toi, enferme un mystère. Il est la figure de ce monde que nous traversons. Nous sommes poussés, nous sommes bousculés par la marche des années que rien ne peut arrêter. Nous sommes bousculés par l'instabilité des choses humaines, par les vicissitudes, par les trahisons, par cette inconstance qui entraîne tout dans son cours comme un fleuve furieux. On ne peut pas y résister. Ce nombre 40, c'est la figure de ce monde. À la fois dans le temps, à cause des quatre saisons, et aussi dans l'espace, à cause des quatre points cardinaux, des quatre fleuves de l'Éden, des quatre vents. Mes frères, si nous comprenons cela, c'est toujours Augustin qui parle, alors c'est un devoir pour nous chrétiens, un devoir évident de nous abstenir, au moins un peu, ça c'est moi qui ajoute, au moins un peu, parce que je pense à moi, des convoitises du siècle. Commençons par ce jeûne de 40 jours, connu sous le nom de carême. À son époque, ça venait d'arriver. C'est un devoir pour nous, un devoir qui nous est imposé par la loi de Moïse, car Moïse a jeûné 40 jours, par les prophètes, puisqu'Élie a jeûné 40 jours, et par l'Évangile surtout, puisque Jésus a jeûné ce même espace de temps. Et il ajoute, et le nombre 50, qu'en fais-tu? Ne vois-tu pas qu'il est l'emblème de ce temps à venir, ce temps de la joie dont Jésus a dit que rien ne pourra nous le ravir. Bien sûr, durant cette vie, nous ne sommes pas en possession de cette joie, mais après les 40 jours consacrés à la passion du Seigneur, dans les 50 jours qui suivront sa résurrection et où nous cesserons de jeûner, nous célébrerons par avance, bien que en figure seulement, comme une ombre, nous célébrerons néanmoins ce temps de la joie future. Il est temps de conclure, et pour cela, je voudrais reprendre un cri de saint Paul, qui n'a pas été dit pour le carême, qui n'existait pas bien sûr à l'époque, mais qui me semble en résumer tout le sens. C'est dans l'Épître aux Philippiens. Le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans la mort, et donc, commençons par la mortification ou la pénitence, ça c'est moi qui ajoute, lui devenir conforme dans la mort afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Ayant été saisi moi-même par le Christ, je poursuis ma course pour tâcher de le saisir. Attention, mes frères, je ne me flatte pas d'avoir déjà réussi, de l'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci. Oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Eh bien, de là où il est, on ne peut pas douter que notre cher saint Paul nous entend. Et je ne sais pas si vous avez gardé cette feuille d'hier. Voici maintenant le temps de la pénitence. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.